quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
L'industrie pornographique est en train de détruire des générations entières. Elle détruit leur santé mentale, leur santé sociale, leur santé sexuelle, leur santé affective. Elle détruit leur capacité à aimer. C'est du moins le constat de la sexologue Thérèse Argaud dans son récent ouvrage « Tout le monde en regarde » ou presque, tant le chiffre de consommation du porno explose. Parmi les conséquences supposées de cette consommation à haute dose, la récession sexuelle. Ça, c'est le constat de l'IFOP qui observe que la part des Français ayant eu un rapport sexuel au cours des 12 derniers mois, 76% a atteint son niveau le plus bas depuis les années 70. Alors voilà, comment sauver tout simplement son couple du piège du porno ? Exploration de ce sujet pendant 52 minutes sur Radio Notre-Dame et RCF avec mes deux invités du jour qui sont pour commencer Flavie Ten. Bonjour Flavie.
Bonjour Marianne.
Ravie de vous retrouver. Vous êtes toujours sexothérapeute, thérapeute de couple, auteur notamment de cet ouvrage Aimer de tout son corps chez Erol. Peut-être, une actualité à partager avec nos auditeurs.
Eh bien, je participe au Salon du Livre à Dieppe dans 15 jours, le 16 novembre. Voilà, ça c'est la petite actu.
Pour nos auditeurs qui nous écoutent de là-bas, tout voilà. Simplement, nos amis du Nord, enfin qu'est-ce que c'est
Normandie.
Comme région de la Normandie, hein. La Normandie, c'est grand la Normandie, en tout cas on vous salue, on vous embrasse d'ailleurs les Normands qui nous écoutent aujourd'hui dans cette émission Quête de Sens. Nous sommes également en compagnie de Guillaume de Brébisson, parisien Guillaume, notamment parisien. Comment ?
Pas parisien.
Pas parisien Guillaume de Brébisson.
Pas parisien du tout.
Vous êtes d'où vous ?
Je suis à Rambouillet.
Bon, c'est pas très loin.
Ah, mais c'est pas pareil, on a la forêt.
Francilien. Voilà, qui est précisé, Guillaume de Brébisson, thérapeute de couple, qui avait publié « S'expanouir, mais le petit dernier lettre à mon fils au sujet de l'amour, du couple et de la sexualité chez First », qui animait régulièrement des stages et des conférences, et notamment des stages de reconnexion, hein, pour les couples. Hein.
Alors, avec mon épouse Sabrina, on anime des stages qui s'appellent les stages « S'expanouir ». Et c'est un cycle de plusieurs stages. Et le premier s'appelle « Faire l'amour avec amour ». Et il se tient en février prochain. Les inscriptions sont ouvertes.
Faire l'amour avec amour. Ah ben dites-moi, ça c'est si ce n'est pas paradoxal, cette affaire-là. On en est arrivé là aujourd'hui ? On ne s'aime plus quand on fait l'amour.
Je pense que beaucoup de couples, alors porno ou pas porno, on va en parler tout à l'heure, mais beaucoup de couples arrivent à un moment de leur existence de couple où ils font d'abord beaucoup moins l'amour qu'autrefois, et souvent sans trop savoir vraiment pourquoi, et où par ailleurs ils s'aiment, mais ils ne sont pas forcément plongés dans cet amour au quotidien, parce que le travail, les enfants, etc. etc. Et nos stages sont des stages où réellement on remet de la connexion entre les partenaires du couple de manière très intense, où on leur fait voir tout ce qu'il y a de beau chez l'autre, tout ce que l'autre m'apporte à moi et tout ce que j'apporte à cet autre, et où on leur donne également un certain nombre d'informations sur comment faire l'amour pour que ce soit satisfaisant pour les deux partenaires. Parce que bien souvent, il y en a quand même un qui se sacrifie au profit de l'autre.
Dans la sexualité du couple. Hors pornographie, hein, on est d'accord.
Hors pornographie,
c'est comme ça.
Oui,
c'est des chiffres.
C'est souvent ce qui se produit. C'est-à-dire que faire l'amour, c'est comme faire la cuisine. C'est-à-dire que si on s'y implique et qu'on fait attention et qu'on trouve que c'est un moment important, eh bien, on va faire un plat délicieux. Et si on fait ça parce que c'est le moment, mais qu'on a plein d'autres choses en tête, on va faire quelque
la
chose d'ordinaire.
La fameuse to-do list, voilà. Hein, évoquée par certains articles, enfin, dans certains articles. Flavie Ten, est-ce qu'il y a un rapport direct, selon vous, entre cette espèce de récession, pas cette espèce, cette récession sexuelle affichée par l'IFOP, et cette consommation de pornographie les couples en général en ce moment ?
En tout cas, les chiffres que vous donnez interrogent, puisque c'est un constat, on voit la consommation de pornographie n'a jamais été aussi accessible, autant répandue, même permise. Enfin, maintenant, c'est admis.
Quoi.
Donc, et y a ce chiffre qui montre que les couples font moins l'amour. Donc on est un petit peu tenté quand même de faire un lien entre ces deux informations. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la banalisation de la consommation de porno et de la masturbation associée, eh ben on peut séparer les affaires de couple et l'épanouissement de la pulsion sexuelle au lieu de trouver un moyen d'unifier ce qui se passe entre mes sentiments, mes valeurs, ce que je pense de mon couple, de mon compagnon, ma compagne, et ce que je vis dans mon corps, dans la relation sexuelle. Donc,
Guillaume de Brébisson, vous partagez ce constat, évidemment, le rapport pardon, qu'on peut faire entre les deux.
Oui, je pense qu'on est d'accord avec Flavie sur ce sujet-là. Ce qui me semble important, c'est que, d'une manière générale, le monde dans lequel on vit nous pousse à faire ce que j'appelle nous dissocier. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on va tous chercher un moyen de s'abstraire du quotidien dans lequel on est pour aller ailleurs. Et une manière de le faire, c'est ce petit objet magnifique qu'on a tous à côté de nous, là, qui est un téléphone portable. Et sur ce téléphone portable, il y a notamment les sites porno qui sont devenus accessibles. Alors, je rappelle quand même que la grosse différence entre aujourd'hui et l'année, c'est qu'aujourd'hui, les sites porno arrivent directement sur notre téléphone portable, c'est-à-dire que les images pornographiques viennent directement dans notre poche, alors qu'autrefois,
lorsqu'on voulait,
il fallait aller les chercher. Donc, c'est vraiment très, très différent. Et bien entendu, si je me plonge en permanence sur mon téléphone portable, par exemple, pour aller regarder des couples qui font l'amour, et puis qui font l'amour, ce sont des représentations, c'est très éloigné de la réalité. Mais je vais avoir ma dose d'excitation, je vais ou je ne vais pas me masturber, mais en tous les cas, je vais avoir cette montée-là très, très excitante, cette pulsion très forte et tout ça. Et puis le soir, je vais arriver chez moi et je n'ai aucun intérêt à recommencer tout ça. Parce que faire l'amour avec son compagnon ou avec sa compagne, c'est quoi ? C'est être en communication avec lui ou avec elle. C'est être dans un échange, un partage, quelque chose de doux, quelque chose où je cherche à lui faire plaisir et il ou elle cherche à me faire plaisir simultanément. Donc on est dans quelque chose de l'ordre de la relation. Alors que regarder un site porno, c'est pas du tout de la relation.
Tout sauf ça, en fait.
C'est exactement le contraire.
88%, vous allez me dire si je me trompe, les amis, 88% des images et des films visionnés possèdent de la violence, comportent de la violence sexuelle. Ça pose question aussi, Flavie, et ça nous oblige à réfléchir également sur l'impact sur les relations amoureuses et la connexion dont vous parlez depuis le début, Guillaume et Flavie. On est mal barrés, quoi.
Ouais, c'est compliqué parce qu'on apprend à aimer, enfin, il n'y a pas de cours pour apprendre à aimer, donc on apprend dans nos relations, dans l'enfance, dans les relations avec les parents, dans les relations avec les frères et sœurs, dans les relations amicales, puis les relations amoureuses. Et en fonction du terreau dans lequel on a évolué, etc., cet apprentissage, il peut être plus ou moins juste, plus ou moins un bon exemple. Et par-dessus ça, à peu près à l'adolescence, on va avoir, parce que c'est comme ça hein, que les ados apprennent, entre guillemets, à faire l'amour, c'est en allant regarder. Souvent, c'est ça qui motive d'ailleurs, c'est je veux voir comment... Moi, je me souviens d'une intervention comme ça auprès d'élèves d'inquiète, ils disaient, non mais c'est bon, nous, on connaît tout par cœur, on n'a pas besoin de vous, on a tout vu dans les sites porno. Donc, Oui, bien sûr. C'est pas la meilleure école, c'est pas un très bon exemple. Donc... alors que, justement, la relation amoureuse et la relation sexuelle, c'est ce qui va permettre de faire circuler l'amour. Et c'est ça dont on a besoin. En fait, la quête absolue, fondamentale, je pense, de chacun, c'est quand même de se sentir aimé, de pouvoir aimer, c'est de pouvoir faire circuler cet amour. C'est absolument pas ce qui se passe dans ce que propose l'industrie pornographique.
Et alors, certains évoquent, même, alors pour ne pas la nommer, Thérèse Dargaud, mais de toute façon, je pense que vous êtes d'accord autour de cette table, elle compare l'addiction à la pornographie, et on va raconter à quel point dans le couple c'est difficile d'en sortir quand c'est constaté une fois en couple. Quand ça a commencé à l'adolescence, etc., cette addiction, elle compare cette addiction à l'addiction à l'héroïne, Thérèse Dargaud.
Oui, on peut la comparer à toutes les addictions qu'on veut. Une addiction est une addiction. Je crois que l'addiction la plus forte qu'on connaisse, c'est celle à l'alcool, dont on parle finalement pas si souvent que ça, parce qu'on imagine toujours que les addictions sont des choses avec des choses prohibées, comme l'héroïne par exemple, alors que l'alcool est en vente libre.
Et la pornographie aussi est en vente libre.
Et la pornographie est
accessible.
La pornographie, elle est accessible gratuitement. Donc, c'est encore bien plus facile de se la procurer. Et c'est une addiction. Oui, ça, c'est certain. Moi, j'ai effectivement vu des couples arriver en thérapie de couple épuisé, parce que ne sachant plus du tout comment gérer la place du porno dans la relation, et finalement se séparant parce que, parce que c'était effectivement pas gérable. Parce que c'est très très difficile de sortir d'une addiction, quelle qu'elle soit, une addiction au porno aussi. Le problème de l'addiction en général et de l'addiction au porno en particulier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce que Flavie disait là, c'est que ça coupe la communication, ça coupe la connexion. On est en couple pour quoi ? On est en couple pour échanger, être ensemble, partager, s'aimer, se le dire, se le redire, se sentir aimé, se sentir être en train d'aimer l'autre. Voilà, c'est ça le couple, la fondation du couple, c'est ça. Le porno vient couper ça complètement. Mais l'alcool aussi, l'héroïne aussi, toute addiction. Et alors moi, ce que je voudrais quand même juste apporter quelque chose pour modérer nos propos d'aujourd'hui, c'est que je ne voudrais pas que les auditeurs croient qu'il y a une forme de condamnation du visionnage du porno, parce que ça n'est pas ça, enfin en tout cas pas dans mon esprit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 95% des hommes et 49% des femmes qui regardent du porno de manière plus ou moins régulière. Et donc, on ne peut pas se contenter d'aller dans les médias et dire « c'est mal, c'est mal, c'est mal ». Le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que vous avez dit, c'est l'addiction. Le problème, c'est de se laisser être maîtrisé par le porno. Aller voir du porno de temps en temps, éventuellement en couple d'ailleurs, pourquoi pas.
Ah, vous l'aviez
pour
déjà
pimenter
évoqué,
une soirée, pourquoi pas ouais. Pourquoi pas. Mais au même titre que c'est amusant d'aller réserver... un hôtel l'après-midi avec sa chérie pour en profiter. C'est-à-dire ce sont des éléments qui peuvent pimenter une vie sexuelle et pourquoi pas celui-là ? Il n'y a pas d'interdiction à se faire là-dessus. Le problème vient à partir du moment où on est dans la déconnexion, dans le désintérêt de la sexualité, dans l'arrêt de la relation. Ça, oui, c'est grave.
Oui, à Flavie.
Ouais, moi, je voudrais réagir à ce que tu disais, Guillaume, parce que pour moi, mais après, c'est voilà, chacun et chaque couple peut trouver son équilibre. Mais pour moi, il y a quelque chose dans le produit en lui-même, dans le film pornographique, ouais, qui n'est pas propice à la communication, la connexion dans le couple. Ça vient faire écran, enfin d'ailleurs, à la relation. Donc, on peut trouver un certain plaisir partagé. Alors, ce dont je me permets de douter aussi, parce que ça peut être aussi un des deux membres du couple qui va faire cette proposition de dire « Ah, c'est sympa, on va regarder ça
donc
ensemble. »
Les deux sont d'accord, c'est pas évident.
Et l'autre qui va se dire « Bah, ok, pour lui faire plaisir, mais peut-être que ça le rejoint pas fondamentalement. » Donc, faut déjà être
subtil, hein,
bien au clair. Bah, ça, c'est, on peut le dire, d'un grand nombre de pratiques... et d'activités, même au sens large, dans le couple, à quel point je m'adapte à ta proposition, mais en fait, ça me coupe, moi, de mes valeurs, mes envies, pour pouvoir calquer aux tiennes. Ou est-ce que c'est vraiment un choix posé consciemment, qui me rejoint profondément ? Et le problème aussi avec la pornographie, c'est que pour moi, c'est quelque chose qui va... plutôt que de pimenter, qui va plutôt restreindre le champ des possibles qui peut exister dans le couple, dans la relation, parce que justement, ça propose des modèles imposés par l'image, et du coup, ça va couper de l'imaginaire, de ce qu'on a vraiment... C'est un mouvement qui vient de l'extérieur vers soi, au lieu de, pour moi, le bon mouvement, enfin, dans le sens, le mouvement juste, c'est celui où je vais d'abord m'interroger, me connecter à ce que je vis, moi, me connecter à ce que je ressens, pour ensuite le proposer dans le couple et rejoindre l'autre. Et du coup, c'est un mouvement, au contraire, qui vient de l'intérieur.
Qui est inversé.
Voilà.
J'aimerais qu'on s'adresse maintenant, bien qu'on l'ait déjà fait évidemment depuis le début de cette émission, à nos auditeurs donc, voilà, qui sont concernés. Cette émission m'a d'ailleurs été demandée. Merci d'ailleurs, auditeur chouchou, de me proposer comme ça des sujets tout simplement qui font partie de votre quotidien, des problématiques qui s'inscrivent dans une vie quotidienne. Et celle-là est quand même essentielle, puisque on voit bien, hein, d'après ces chiffres, qu'il y a même une dimension sociétale qui se cache derrière ces chiffres. Et c'est vrai que quand ça commence tôt, quand l'addiction, maintenant on sait, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais ils sont incroyables et ils augmentent chaque année. Maintenant, la consommation du porno démarre je crois, même avant 11 ans. Enfin bon, bref.
Les filles, en sixième, vraiment, c'est un enfant sur
un
deux.
Un enfant sur deux, voilà. J'essaie de me souvenir, ce qui est colossal. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Quand l'addiction est là, voilà, malheureusement, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Les parents ou l'entourage n'a pas fait ce qu'il fallait pour enrayer cela, etc. Chez l'adolescent ou l'adolescente, qu'est-ce qu'on fait quand, voilà, l'addiction est là, on est en couple, on veut bien faire, mais malheureusement, bam, c'est que, pas le naturel revient au galop, mais l'addiction revient au galop. Et Guillaume Brémison, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors,
qu'on commence à aider un peu nos auditeurs qui s'interrogent aujourd'hui.
C'est la vraie question, et ça, c'est difficile. Pour sortir d'une addiction, il faut que la personne addict ait le désir d'en sortir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de solution. Après ça, il n'y a pas de solution. On ne sort pas quelqu'un de l'addiction malgré lui. Ça n'existe pas. Si vous avez essayé un jour dans votre vie d'arrêter de fumer, par exemple, vous le savez. Donc, si un des deux partenaires est addict et souhaite quitter l'addiction, à ce moment-là, il faut travailler en thérapie, d'une part, sur un plan individuel, pour essayer de comprendre ce que cette addiction vient nourrir, ce qu'elle vient compenser, parce qu'il y a forcément quelque chose qui est nourri et compensé par l'addiction, une souffrance probablement, très souvent liée à des violences sexuelles.
C'est souvent le cas.
Pas toujours, mais souvent. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est au sein du couple remettre de la communication et de la connexion. Enfin là, on n'en parlera jamais assez de toute l'émission, de toute façon. Hein. L'ennemi du porno, c'est l'amour. Et ce qu'on vient chercher dans sa relation de couple, c'est l'amour. Ce dont on a besoin, c'est d'amour. Il se trouve que cet amour, il est sexué, donc il s'exprime de manière sexuelle. Et lorsqu'il s'exprime de manière sexuelle correctement, il ne s'exprime pas avec les codes du porno. Il faut aussi rappeler quand même, et c'est là qu'on est, je pense, tout à fait d'accord, c'est que le porno n'est pas de la sexualité, c'est une représentation de la sexualité. Ce n'est pas la réalité. Quand je vais voir un western, et je sors dans la rue, mon chien, après avoir vu un western, je ne pars pas avec mes colts et mes six coups en m'attendant à me faire attaquer par les Indiens. Donc, quand je vois un film porno, je ne devrais pas m'attendre à ce que ma réalité soit identique à ce qu'il y a dans le film porno. Parce que c'est une invention.
Le problème, ça, on va en parler, pas. C'est que une des conséquences, c'est qu'on arrête toute relation réelle amoureuse, en fait, toute relation sexuelle dans le couple. Ça, c'est aussi une des... les chiffres le prouvent, hein, j'en ai plein des chiffres, il n'y a pas de problème.
Absolument.
Bref, suite de cet échange, si vous le permettez, les amis, que je t'aime, un peu d'amour, ça ne fait pas de mal, par-ci, par-là, avec Camille. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Quand ton premier soupir se finit plus un cri. Quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Quand on m'a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui l'appelle, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime,
la belle reprise, évidemment, du Que je t'aime que nous connaissons tous de notre national Johnny National, Que je t'aime, interprété par la délicieuse Camille. Guillaume de Brébisson et Flavitaine sont avec nous aujourd'hui dans cette émission Quête de sens. Comment sauver son couple du piège du porno? Peut-être êtes-vous, eh bien justement, un peu noyé dans ce que... Enfin, en tout cas, vous êtes peut-être concerné par cette difficile, douloureuse addiction. Quand elle s'installe dans le couple, comment faire? Qui prévenir? Comment s'en sortir? Seul, à deux, la question n'est pas si simple à résoudre, comme nous l'a évoqué à l'instant Guillaume de Brébisson. Flavitaine, il y a aussi une histoire, on n'a pas évoqué la culpabilité que cela peut générer, à la fois d'être addict, à la fois pour l'autre personne qui malheureusement doit subir cette addiction de la part de son conjoint, de sa conjointe. Comment faire pour aborder déjà cette question, quoi. C'est difficile, hein, quand les gens sont installés.
Ouais, c'est difficile parce que c'est une question qui est personnelle, ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que ça concerne une personne. Alors moi, je vois aussi de plus en plus, hein, chez les jeunes couples où les deux membres du couple peuvent être empêtrés dans cette addiction.
Ouais. Mais, ça arrivera plus souvent, visiblement.
Bien
si on voit
sûr.
Les chiffres.
Mais chacun a son histoire personnelle là-dedans. Donc, à la fois, le couple peut être une ressource, peut être un moyen aussi de se, comment dire, de. Parce qu'en fait, à quel moment on prend conscience, on capitule, entre guillemets, devant l'addiction, ça peut être, même si c'est évidemment une décision qui doit être personnelle, mais le fait de voir son couple aller dans l'impasse, de se retrouver en difficulté relationnelle, peut être un facteur hyper motivant, mais c'est un chemin qui est quand même personnel. Donc, on parlait du coup de la culpabilité, ça c'est un cercle infernal, en fait, parce que quelque part, ça enferme encore plus dans son addiction. Et puis, ça risque, en tout cas, d'alimenter le découragement, etc., le défaitisme.
Par exemple, là, les hommes qui nous écoutent, c'est surtout... y a surtout des hommes, je crois, selon les statistiques, mais...
De plus en plus de femmes.
Les personnes qui sont concernées, qui nous écoutent, qui sont accros et qui n'osent pas en parler, il faut d'abord en parler, Guillaume de Brébisson, à son mari ou sa femme. Il faut en parler, commencer par dire, écoute, voilà, je suis accro, avant de se faire piéger par... griller, si je puis dire, par l'autre.
C'est une question un peu théorique, parce que dans les faits, il me semble que dans le couple, quand il y en a un des deux qui est accro, l'autre le sait très
Fini
vite.
Par le savoir.
Aperçoit
Fini
très,
par
très
le
vite,
savoir.
Ouais.
Okay.
C'est vrai que c'est une question complexe, parce que quand il y a une addiction comme ça, en fait, moi, je comparerais plutôt l'addiction au porno à l'addiction aux jeux vidéo. C'est un peu la même chose, parce que ça fonctionne aussi avec des écrans et ça isole de la même manière. Mais lorsqu'il y a comme ça cette addiction à l'intérieur d'un couple... il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de déconnexion dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a cet autre phénomène, c'est qu'on a comme ce qu'on appelle le tiers dans le couple. C'est un peu comme s'il y avait une troisième personne, comme s'il y avait un amant ou une maîtresse qui était là. C'est-à-dire qu'il y a la présence de quelque chose dans l'atmosphère dont on sait que c'est là, dont on n'ose pas trop parler, mais qui vient interagir finalement et modifier toutes les relations au sein du couple. Et Et ce fameux tiers, effectivement, qui joue un peu le rôle de l'éléphant dans la pièce, il est très important de le nommer. Il est très important, à un moment donné, de jouer carte sur table et de dire, bon, voilà, il y a le porno qui est là, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis après, il faut aller se faire prendre en charge, parce qu'on ne sort pas d'une addiction tout seul. On sort d'aucune addiction tout seul. Aucune. Ni porno, ni autre chose. Donc il faut absolument être aidé. Et en même temps, personnellement, je ne crois pas tellement au programme qui vous propose de vous sortir du porno en 3 mois et en 12 séances, parce que, en règle générale, les sources de l'addiction au porno sont plus profondes. C'est pas juste un problème comportemental. Et puis, les sources sont plus profondes parce que, donc, souvent, comme je le disais tout à l'heure, très souvent liées à des blessures issues de violences sexuelles antérieures. Et puis, l'effet de l'addiction au porno, c'est toujours cet effet de la dissociation. Je voudrais rappeler ce que c'est que la dissociation, parce que c'est un mécanisme qui est très, très important. Quand je me dissocie, ça veut dire je ne suis pas là. On a tous entendu des professeurs à l'école dire que tel ou tel élève était dans la lune quand il était en classe. C'était vous, mais moi aussi j'étais souvent dans la lune. Donc dans la lune, ça veut dire je ne suis pas là.
D'accord.
Mon corps est présent, mais mon esprit est absent parce qu'il est occupé ailleurs, il est préoccupé à autre chose. Et le problème de la dissociation, c'est que c'est un mécanisme au départ qui est un mécanisme qui est un mécanisme traumatique, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui se met en place lorsque je vis un trauma, parce que ça me permet de ne pas être présent lorsque je suis en train de vivre quelque chose de très douloureux. Et ce mécanisme, il est addictif en tant que tel. Parce que la dissociation, elle déclenche à l'intérieur de soi, elle déclenche l'émission d'hormones qui sont notamment les endorphines. Les endorphines, c'est de la morphine. La morphine, c'est une drogue et on devient assez facilement addict au fait d'être dissocié. Donc, on va rechercher des occasions de dissociation. En règle générale, les occasions de dissociation, elles nous arrivent. Ce sont des choses de l'extérieur, plutôt. C'est assez difficile de dire « Ah tiens, là, je vais me dissocier ». On pourrait, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on a besoin d'un support. Et ce support, par exemple, le porno est parfait pour ça.
Ouais.
Le porno, les jeux vidéo et plein d'autres choses. Le téléphone, scroller sur Facebook toute la journée,
c'est une forme, finalement, de dissociation.
Bien sûr. Donc, on est très, très, très souvent, tous autant que nous sommes, en train de nous dissocier, et le monde moderne nous donne
génération
de plus en plus d'occasion
de faire. Hein, on pourrait
on
dire
une
comme
génération
ça.
Dissociée. On est, d'une certaine manière, et je trouve que ça serait un excellent titre d'un livre qu'il faudrait que j'écrive un jour, on est tous absents.
Ouais.
On est tous aux abonnés absents tout le temps. Alors, ça nous fait du bien. C'est une expérience qui n'est pas désagréable. Plonger une heure sur Facebook et vous allez ressortir un peu étourdi, mais finalement, ça n'aura pas été désagréable. Vous n'aurez rien fait pendant 7 heures. Ce n'est pas forcément très, très grave. En revanche, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus en connexion, vous n'êtes plus en lien avec les autres. Or, ce qui nous nourrit profondément, c'est le lien avec les autres, c'est la relation, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ça, c'est d'abord du lien. Donc, la dissociation est antinomique avec l'amour.
Elle est tournée vers soi-même, en fait.
Elle est tournée vers soi-même.
Ouais.
On s'absente de soi-même, mais on s'absente de la relation au reste du monde. Mais vous pouvez faire l'expérience si vous avez un chat ou un chien à la maison, ou un enfant, alors excusez-moi, parce que, évidemment, c'est des rapprochements un peu hasardeux, mais allez passer une demi-heure sur Facebook ou Instagram, en présence de votre chien, votre chat ou votre enfant, et vous allez voir leur regard tout étonné, et ils vont se demander, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas avec moi, là?
Ouais.
C'est exactement ça, c'est une expérience très simple. Le porno, comme d'autres choses, nous met là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, nous encourage à ne pas être en relation. Or, quel est le moyen le plus profond, le plus magnifique et le plus ressourçant d'être en relation quand on est en couple? C'est de faire l'amour.
Mmh. Mais d'autres, à ce micro, hein, ont évoqué, d'autres sexologues ont évoqué déjà à ce micro, à moins que j'ai très mal compris, une part de, pas de dissociation, mais comment peut-on dire ? En fait, en gros, toute relation sexuelle comporte quand même un peu de... Pas de dissociation, mais pas de jeu de rôle non plus forcément. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de petite représentation. Enfin, je sais pas, je sais rien, moi je ne suis pas sexothérapeute.
Bah, je pense que Guillaume et moi, on est sur la même ligne là-dessus. C'est l'invitation qu'on a envie de faire à tout le monde. C'est justement de ne pas être dans cette... d'être dans cette représentation, d'être le plus possible connecté à soi, au moment présent pour pouvoir être connecté à l'autre, pour pouvoir vivre un moment pleinement authentique qui va dans lequel je vais être en lien, moi, entre ma tête, mon cœur, mon corps, que j'offre au moment qu'on est en train de vivre et qui va te rejoindre, toi, dans ta tête, ton cœur, ton corps. Et c'est ça qui est merveilleux dans la relation sexuelle, c'est que c'est un moment où on va pouvoir choisir d'aimer en choisissant d'avoir une relation sexuelle, faire circuler le sentiment amoureux par les émotions qu'on va vivre et sentir l'amour dans notre corps. Et ça, c'est vraiment ça qui va nous combler pleinement.
Il est bon de faire une thérapie de couple à ce moment-là ou plutôt de commencer par travailler sur soi. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question tout à l'heure, Guillaume Falvier. Qu'est-ce que vous recommandez, vous ?
En fait, il n'y a pas un... Déjà, chacun arrive avec sa problématique, son niveau de conscience du problème dans son rapport au porno, parce qu'il y a beaucoup de la petite histoire qu'on se raconte. Non, mais c'est... je suis pas vraiment addict ouais. parce que c'est pas si souvent, ou c'est voilà, je sais, mais je gère. Enfin, ouais. exactement le même langage qu'on va avoir dans toutes les... C'est pour ça que tout à l'heure que je parlais de la capitulation, c'est vraiment le moment où je reconnais que oui, j'ai vraiment un problème. D'accord. Et c'est pas une histoire de quantité, c'est vraiment, enfin, pour moi, et je
c'est
rejoins...
Quoi. C'est, dans
c'est le rapport, et je pense que c'est ce que signifie Thérèse Argaud quand elle compare la pornographie à l'héroïne, c'est qu'il y a un côté addictif à... Une prise suffit à me rendre addict.
Ouais.
C'est que l'intensité de ce que je vais vivre en termes d'hormones, etc., fait que je vais avoir envie d'y revenir. Et donc, ça va peut-être pas être tous les jours, mais en tout cas, il y a ce côté où, un peu obsessionnel, ouais. Le moment où je vais avoir mon shot d'hormones. Et donc, quand on parlait tout à l'heure du fait d'en parler ou pas, ça, après, chacun a son chemin. Mais ce qui est bon dans la parole, c'est déjà que ça permet d'incarner ce côté « je capitule devant le problème, je reconnais le problème ». Et puis, je dépose, et ça, c'est très beau, très fort pour le couple, même si c'est pas facile, je dépose ma honte, en fait. Je dépose la honte que j'ai avec ce comportement que j'ai avec la consommation de porno. Et déposer ces hontes dans un espace où je me sens en sécurité, qui est l'espace de
et
la relation.
Ouais.
Voilà, exactement. Bah ça fait grandir l'intimité du couple, ça fait grandir l'intimité émotionnelle. Donc c'est hyper bon
donc
pour le couple.
On prend un exemple. Donc je me fais griller, voilà, par ma femme, mon mari. La première chose à faire, voilà, quand on est en tout cas de bonne volonté, on veut que pas faire foirer ce couple, en fait cette relation, ce mariage qui plus est. On dépose ses hontes, c'est ça, on en parle, on essaye de
alors c'est
de
pas facile, oui,
mais c'est ça, ça a l'air d'être... Ouais, Guillaume me fait les gros yeux.
Non,
c'est pas facile,
C'est vraiment pas simple. Parlons du concret, parce que c'est ça. En
non,
fait,
c'est pas simple, mais Flavie le disait très bien. Dans un couple, quand l'un des deux a un problème... Il faut absolument qu'il aille en parler avec l'autre.
Ouais. C'est ça que je voulais savoir.
Sinon,
la relation
n'existe pas. Et l'autre chose que je voudrais amener, alors pour répondre à votre question tout à l'heure à laquelle vous disiez que je n'avais pas répondu, pour moi la réponse, elle est simple, c'est qu'il y a un travail à faire au sein de la relation de couple, et ce travail-là, c'est mieux s'il est fait avec un thérapeute de couple, parce que le thérapeute de couple va aider le couple à se reconnecter, ce qui est vraiment non seulement essentiel, mais en plus guérissant, et qui est la source de la guérison potentielle derrière au sein de la relation, et puis il y a sûrement simultanément un travail individuel à faire.
D'accord.
Et très souvent, quand je reçois des couples en thérapie, j'envoie chacun des deux chez un thérapeute individuel en parallèle. Parce que c'est pas parce qu'on vient pour sa relation qu'on ne doit pas travailler sur soi.
C'est douloureux. C'est quelque chose de douloureux à traverser. C'est difficile et douloureux.
Oui, souvent. Mais c'est pas grave. Enfin, on traverse tous dans un couple qui dure... nécessairement, l'un et l'autre, séparément et aussi ensemble, on va aller traverser des moments douloureux. Il y a plein d'autres moments douloureux de l'existence à traverser ensemble. Et le couple est fait pour ça. C'est une ressource dans ces cas-là. Enfin, ça peut être une ressource. Il est souhaitable que ça en soit une.
Te amo corazón, Prince, sur Radio Notre-Dame. C'est fait tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
and the knowledge tree. Ti amo corazón. There's nothing wrong. Te amo corazón.
Un peu d'amour dans ce monde de western moderne, si on fait une référence à ce que vient d'évoquer Guillaume de Brébisson, Te amo corazón, Prince. Dans cette émission Quête de sens, comment sauver ce couple du piège du porno? Nous en parlons avec donc Guillaume de Brébisson, avec sa lettre à mon fils au sujet de l'amour, du couple et de la sexualité chez First, et Flavitaine et son ouvrage Aimer de tout son corps chez Erol, vous qui êtes sexothérapeute et thérapeute de couple. On n'a pas assez parlé, effectivement, Flavie, en effet, de la culpabilité, puisqu'elle est à double tranchant. Culpabilité peut-être, doit être, à un moment donné, joue son rôle dans le fait de vouloir rebondir, de vouloir se sortir de cette addiction. Et en même temps, quand on reste un petit peu empêtré, même complètement empêtré dans cette addiction à la pornographie dans le couple, patatras, là c'est carrément le serpent qui se mord la queue sans faire de mauvais jeu de mots. Bref, Flavitaine, qu'est-ce qu'on dit effectivement à nos couples qui nous écoutent et qui justement, en tout cas quand l'un des deux sent cette culpabilité, qu'est-ce qu'on en fait au fond?
La culpabilité, comme vous disiez, elle va servir à un moment donné de moteur pour prendre la décision de sortir de ce comportement qui ne nous convient pas, qui nous coupe de la relation, qui risque d'abîmer le lien. Mais si on reste empêtré dans cette culpabilité, on s'en sort pas. Et donc, en réponse, il y aurait besoin de beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et moi, c'est un peu ce que j'ai envie de dire à tous les auditeurs là, qui nous écoutent, c'est que en fait, vous n'êtes pas coupable de cette addiction parce que tout est fait pour rendre addict, et surtout dès le plus jeune âge. Et évidemment qu'un jeune de 11-12 ans, il n'a pas du tout les capacités, ne serait-ce que de discernement, pour dire non. Alors, il faut les accompagner, il faut les éduquer, il faut leur donner le plus possible. Voilà, j'encourage tous les parents à vraiment avoir un message sur le sujet pour leur donner le plus possible les armes pour pouvoir dire non. Mais n'empêche qu'en face, il y a des armes de guerre assez lourdes.
Ouais.
Donc, vous n'avez pas à vous sentir responsable du fait d'être addict. En revanche, à l'âge adulte, on va pouvoir prendre sa responsabilité pour choisir d'en sortir. Mais c'est un chemin qui est semé d'embûches, qui peut passer par des rechutes. Et c'est OK, en fait. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas qui...
C'est pas grave de rechuter, Guillaume de Brébisson, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Si tant est que chaque rechute soit
abîme
moins intense
couple, hein.
que la précédente.
Ouais. Mais abîme le couple à chaque fois, j'imagine.
Pardon ?
Abîme le couple à chaque fois, j'imagine.
Vous savez, moi, dans les couples que j'ai suivis, il y en a un qui m'a beaucoup ému parce que les deux partenaires étaient addicts à quelque chose. Il y en avait un qui était alcoolique et l'autre qui fumait du hashish depuis 20 ans. Et ils sont pas venus me voir pour ça. Ils sont venus me voir parce qu'il y avait des difficultés de couple. Mais ça a été posé très vite quand même. Et puis, à partir de là, la thérapie de couple s'est un peu modifiée. Et puis, ils ont vécu des crises. Ça allait mieux, mais puis ça retombait, et puis ça repartait, etc. Un jour, ils ont vécu une méga crise qui a fait que l'homme a arrêté de boire, du jour au lendemain. Tout seul, sans aide. Il a tenu pendant des mois et des mois et des mois. Mais sa compagne, elle n'arrivait pas à arrêter de fumer du hashish. Donc, ils avaient trouvé un équilibre dans le fait d'être addicts ensemble. Là, ils se sont trouvés en déséquilibre, puisqu'il y en avait un qui était addict et l'autre qui était clean. Et puis, finalement, elle a arrêté le hashish à la suite d'une autre expérience. Et ils ont reconstruit un autre équilibre. Est-ce que l'un des deux va retomber un jour ou pas ? Ce
On
sont
sait
des
pas.
Gens qui sont addicts depuis très longtemps.
Ouais.
Ils ont eu plusieurs moments de rechute. Ce qui est beau, c'était de voir que ce couple s'aime et que chacun à la fois souffre de l'addiction de l'autre et de sa propre addiction. Et en même temps, chacun est une ressource pour l'autre et plein d'amour,
c'est pas foutu,
plein de bienveillance,
quoi.
Comme tu disais
c'est
tout
foutu.
À l'heure.
Mais sauf que
non,
là, ça touche quand même le cœur. Le problème du porno, c'est que ça, comme vous l'avez dit, c'est une mauvaise représentation. C'est une espèce de déviance... un dévoiement de l'image qu'on peut avoir, qu'on peut se faire pendant quelques shots, de l'amour. C'est ça le problème, c'est que c'est du faux amour, mais non, c'est comme... Vous voyez, ça piège. Ça piège, alors que le hashish, c'est
non,
un petit peu...
Non, c'est pas l'amour.
Alors
là, je veux pas laisser dire ça.
Représentation. c'est un double piège. Enfin, je trouve ça compliqué
oui,
quand même.
Oui, ça vient toucher à l'intimité sexuelle du coup.
C'est ça.
Et du coup, ça vient intruser un petit peu un lieu qui est un peu un sanctuaire, en fait. Ça concerne que les deux membres du couple et on n'a pas du tout envie qu'il y ait les acteurs pendant qu'ils viennent s'infiltrer dans cet espace. Mais pour revenir en tout cas sur le fait de s'en sortir et de ne pas se décourager, c'est que, voilà, avoir conscience l'un et l'autre que... c'est un combat, c'est difficile, on peut avoir besoin d'aide. Et surtout, voilà, le couple peut être une ressource. Et ce qui est compliqué, c'est quand y en a un des deux qui ne comprend pas du tout et qui, du coup, peut avoir des peurs, des jugements, etc., qui vont refaire venir la culpabilité chez celui qui est addict. Donc là, c'est là
le culpabiliser, en fait, culpabiliser la personne qui regarde.
Exactement, et c'est là où le tiers, le thérapeute, va pouvoir assainir tout ça et repositionner les choses pour que le couple reste un lieu de ressources et non plus un endroit qui va réalimenter la culpabilité, etc.
Vous avez de plus en plus de couples qui ne font plus du tout l'amour, comme on le voit, l'IFOP le dit, c'est un sondage qui date de février dernier, donc c'est plutôt frais et récent. C'est un fait.
Oui, oui, c'est une réalité problématique. Moi, j'en rencontre en consultation et des personnes.
C'est-à-dire que la dissociation est telle, Guillaume de Brébisson, que, en fait, ça casse l'envie de retrouver l'autre dans le réel.
Oui, je pense qu'il y a
un
autre problème dans le fait que les gens ne fassent plus l'amour, qui peut être en partie lié au porno, mais pas exclusivement. On peut le relier au porno, c'est-à-dire que la représentation pornographique. C'est une sexualité qui est essentiellement dirigée vers le plaisir de l'homme et qui est extrêmement stéréotypée. Lorsque on a été, j'ai envie de dire, biberonné à cette représentation-là, naturellement, ce qui va se passer dans la chambre à coucher, ça va être quelque chose de similaire, qui va ressembler à la représentation mentale qu'on en a, subliminale qu'on en a. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, assez vite finalement, la femme d'abord et l'homme ensuite vont se lasser. La femme, elle va se lasser parce qu'elle n'éprouve pas de plaisir là-dedans, ou peu. Et l'homme va se lasser parce que c'est toujours la même chose, et lui aussi il s'emmerde en fait. Mm. Donc, à un moment donné, ils vont arrêter de faire l'amour. Tout ça, c'est complètement cohérent. Ces gens-là, il faut qu'ils viennent dans mes stages.
D'accord.
Vraiment. Non, mais je le dis parce que je suis un des seuls en France à faire ces stages-là. Ça n'existe pas, en fait. Il existe des stages sur la sexualité, il existe des stages sur la relation de couple, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas ce que moi je fais. Ce que je fais avec mon épouse Sabrina, dans le cadre de l'Université de l'Amour, ce sont des stages où on reconnecte le couple et où, en partant de cette reconnexion, on les amène à refaire l'amour dans leur chambre, mais où on leur explique comment faire de façon à ce que ce soit, réellement satisfaisant pour les deux. C'est une école du faire l'amour, en fait. Alors, bien sûr, il faut être majeur, il faut être en couple. On ne diffuse pas ça auprès de célibataires qui sont mis en couple la semaine d'avant pour venir à notre stage.
Voilà,
Des couples qui sont des vrais couples, engagés dans la durée, etc. Et tous ces couples, ils arrivent avec parfois cette difficulté qu'ils ne font plus l'amour, mais très souvent avec surtout une autre difficulté qui, elle, malheureusement, je crois, est beaucoup plus répandue, c'est qu'ils font l'amour, mais...
Parce qu'il faut, quoi.
Très intéressant.
Parce qu'il faut.
Enfin, ça ne les nourrit pas. Et là-dedans, il y a le problème majeur. C'est pour ça que je réagissais tout à l'heure quand vous disiez que le porno, c'était une représentation de l'amour. C'est qu'on confond le sexe et l'amour. Ouais. Et il faut arrêter avec ça. On parle de sexualité comme si la sexualité, et ce qu'on appelle souvent le sexe d'ailleurs, c'était quelque chose qui arrive de nulle part et qui s'auto-suffit, c'est la représentation des sites porno. Je passe la porte, il y a une femme, justement, elle se jette sur moi parce qu'elle avait très, 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 très envie que quelqu'un vienne faire du sexe avec elle. Ça ne représente pas la réalité du tout, ça. Et puis, il y a l'amour. Et l'amour, c'est le contexte à l'intérieur duquel, quand la sexualité paraît et se crée, etc., elle va venir nourrir l'amour, et l'amour va nourrir la sexualité, et tout ça nous rend plus complets, plus heureux, plus détendus, plus profondément en lien avec nous-mêmes, comme le disait Flavie tout à l'heure, d'abord en lien avec moi, tu disais tête, corps et cœur, et ensuite en lien avec l'autre, tête, corps et cœur. Ça, c'est faire l'amour. Et faire l'amour, c'est dans le cadre amoureux. Donc, il faut arrêter de parler de sexe en dehors de l'amour, et il faut remettre de l'amour dans le sexe.
Oui. Et travailler sur l'origine de la pulsion, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous aidez vos patients l'un et l'autre?
Ah bah complètement.
À travailler autour de ça,
Ouais, il y a une vraie éducation pour apprendre à accueillir la pulsion. La pulsion sexuelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une pulsion de vie, c'est une pulsion d'amour.
Ça peut être source de culpabilité aussi.
Oui, et ça, c'est pour ça que je parle d'une éducation, parce que. Les adolescents, souvent, grandissent donc en découvrant leurs pulsions, mais avec soit pas du tout de message, et du coup, une espèce de honte à sentir quelque chose dont on n'a pas le droit de parler.
Ouais.
Donc, c'est que ça doit pas être bien. Mais en même temps, c'est quand même hyper agréable à ressentir. Donc, il y a une confusion. Ou alors, un message qui va être là, c'est pas bien, faut refouler ta pulsion, etc. Ouais. Alors qu'en fait, et du coup, on va voir ce phénomène après, dans les relations adultes, où...
La porte ouverte à la pornographie aussi.
Exactement, parce que du coup, c'est tellement intense à vivre, cette pulsion sexuelle, qu'il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Alors que moi, ce que j'aime bien partager et apprendre aux personnes que j'ai en consultation, c'est de dire, mais en fait, déjà, commencer par l'accueillir... la savourer, la goûter avec un regard hyper joyeux, bienveillant sur vous-même et vos sensations. Et ensuite, c'est ça qui va vous permettre ensuite d'être libre par rapport à cette pulsion, de pouvoir choisir ce que vous allez en faire ou pas. En fait, commencez déjà par très concrètement sentir les signes physiques, les sensations qui se passent dans mon corps. Et ça, c'est quelque chose qui se passe entre moi et moi. Voilà, l'expérience que je fais à cet instant-là et qui est très agréable. Donc déjà, je fais une expérience pour moi-même qui est très agréable. Et après, je peux éventuellement déposer... peut-être être un élan pour partager, tendre une perche à ma partenaire et qu'éventuellement, à partir de là, il puisse y avoir une relation. Mais même pas nécessairement, en fait. Le fait d'avoir pu l'accueillir et la goûter déjà chez moi... la façon dont je vais la proposer, aller vers l'autre, va être beaucoup moins intrusive que si je laisse cette pulsion jaillir et que je vais limite me jeter sur ma partenaire parce que à ce moment-là j'ai une pulsion, donc j'ai envie de faire l'amour, donc il faut que l'autre se réponde, et si l'autre est pas du tout dans cette disposition-là, bon bah ok, je vais me venger sur mon porno, quoi. Je schématise et je caricature, mais c'est un peu ça qui peut se passer. Si je fais moi-même d'abord cette expérience d'accueillir les sensations que je vis, etc., et ben déjà, c'est déjà très satisfaisant. Et du coup, ça va être une proposition beaucoup plus douce qui va laisser aussi l'autre beaucoup plus libre d'adhérer ou pas, de se laisser rejoindre ou pas. Et puis, peut-être que si on ne se retrouve pas dans une relation sexuelle, on peut néanmoins trouver une occasion d'être en lien. Peut-être autrement, peut-être par un moment de tendresse, peut-être par une activité partagée qui n'aura rien de sexuel, mais au moins ça aura été un levier pour partager quelque chose. Parce que ça a été, voyez moi l'image que j'aime bien employer, c'est comme si c'était un jet là, qui va se propulser, et si je le laisse être propulsé directement chez l'autre, c'est un peu, ça peut agresser, quoi. Alors que si j'ai d'abord recueilli tout ce jet d'eau là, cette dans ma vasque, bah après ma vasque elle va pouvoir déborder dans la vasque du couple, et ça va être un mouvement beaucoup plus doux et plus facile à accueillir.
Pour vous, on fera plus l'amour dans, comme le prédisait notre chère Thérèse Argaud nationale, dans 10 ans.
Oui, alors c'est pas Thérèse qui dit ça. Hein. Thérèse, elle a repris le chiffre d'un statisticien anglais qui dit on ne fera plus l'amour en 2030.
Alors, comment c'est vous, Guillaume, sincèrement?
Non, moi je suis pas
aussi pessimiste.
Je suis pas aussi pessimiste.
Mais
je pense que ce que veut dire Thérèse dans son livre, quand elle en parle, c'est qu'on aura encore du sexe et on n'aura plus d'amour incarné dans la sexualité. Ouais. Moi, j'y crois pas.
D'accord.
J'y crois pas parce que.
Sinon, on n'aurait pas de travail. Les gens, ils viennent nous voir. Si on a du travail, c'est que les gens n'ont pas envie de se faire à cette idée.
Absolument. En tout cas,
on a toujours envie d'aimer.
Le mot de la fin. Voilà. Vous avez bien travaillé, vous, mes amis, aujourd'hui. Merci, Guillaume de Brébisson. Lettre à mon fils au sujet de l'amour, du couple et de la sexualité chez First. Merci, Flavitaine. Et aimer de tout son corps chez Erol. Merci, les amis. Et bonne soirée à tous.
Merci beaucoup.